Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous, et vous avez raison d'être sur Radio Okapi. C'est l'heure de faire le point sur le fait marquant de l'actualité. Bienvenue dans votre journal. Présenté par Gisèle Cage, voici les principaux titres de l'actualité. Lubero, l'armée reprend l'initiative face aux miliciens Mai Mai. Depuis deux jours, les FARDC mènent une offensive dans le groupement des Manzia au sud du territoire, reprenant plusieurs positions occupées par des miliciens accusés d'exactions contre les civils. Mbujimayi, près de 100 poteaux électriques bloquent l'avancement des travaux de modernisation de l'avenue Inga, mais leur délocalisation annoncée ouvre la voie à un nouveau réseau de distribution et à la modernisation de l'axe routier. L'invité du journal Nangila Mido, conseiller stratégique à l'Association des personnes vivant avec handicap international, nous parle de l'inclusion comme levier du développement national. Ouverture du journal, c'est dans le territoire de Lubero, au sud du groupement des Manzia, que les FARDC ont lancé depuis 48 heures une vaste offensive militaire. Objectif, déloger les groupes Mai Mai retranchés dans plusieurs localités. Ce samedi matin, des sources locales confirment que l'armée a repris le contrôle de plusieurs positions occupées jusque-là par ces miliciens. Ces derniers sont accusés par la société civile et les autorités locales de commettre de graves exactions contre les populations civiles. Marc Marofimbo nous apporte plus de détails.
Ces opérations de l'armée ont ciblé les positions Mai Mai situées dans les localités de Vuinga et Muhola, au sud-ouest du territoire de Lubero, à environ 60 km de la ville de Butembo. Selon des sources militaires, elles ont permis de déloger les Mai Mai qui se sont repliés vers le sud du groupement des Manzia. Ces groupes armés étaient accusés d'ériger des barrières illégales et de tracasser la population, empêchant celle-ci d'évacuer normalement à ses activités champêtres. Dans la même région, les activités socio-économiques ont été paralysées ce samedi matin sur la route Luotu-Masereka-Magenya, un axe d'intérêt agricole du territoire permettant l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Des affrontements y ont opposé deux groupes Mai Mai, affectant également les régions de Kiamboro et de Musimba, à quelques kilomètres au sud de Butembo. Les véhicules de transport en commun en direction de Lubero, ainsi que les camions de marchandises, sont restés stationnés temporairement le long de la route dans les villages de Viole, Kasumbiro et Ngeleza. Toutefois, un important dispositif militaire est signalé dans la région afin de dissuader les menaces et de permettre la reprise de la circulation, précise nos sources. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nouvelle tragédie dans le sud Kivu. Jeudi dernier, des drones pilotés par le rebelle du M23 ont frappé le centre de Kanyola et le carré minier de Ntula dans les territoires de Walungu. Le bilan est lourd, une dizaine de civils tués et de nombreux blessés. Ces violences ont provoqué un important déplacement des populations et suscitent une vive indignation chez les acteurs locaux qui condamnent fermement cette escalade. Une situation qui ravive les inquiétudes dans une région déjà marquée par l'instabilité. Les détails avec Ronelie Timbonera.
Selon nos sources, cette situation serait la conséquence d'une vaste offensive menée depuis le 7 août par la rébellion du M23 contre les positions tenues par le Wazalendo. Les axes ciblés par ces attaques sont Tchagala, Murali, Mwirama, Zibira, Issi. Plusieurs habitants ont dû fuir leur domicile pour se mettre à l'abri vers Budodo, Chisaza et Mugaba.
Ils ont manipulé des drones, ils ont bombardé la carrière minière du groupement Kanyola et les gens ont perdu la vie. Tel que vous avez vu ça, vraiment, la population a beaucoup regretté l'M23, un mouvement reculé selon la procédure des mouvements. Un rebelle manipule des drones de guerre dans quel pays?
L'élu provincial du territoire de Walungu, Béatrice Nanvano, déplore cette nouvelle violation de l'accord de principe signé entre le gouvernement et le M23 AFC. Elle plaide pour des sanctions sévères à l'encontre des auteurs de ces atrocités. Notons que de nouveaux combats sont signalés ce samedi entre les rebelles du M23 AFC et les Wazalendo à Moulamba dans le même territoire.
Face à la montée de violence dans le sud Kivu, la troisième zone de défense basée à Kisangani exprime son indignation. Dans un communiqué publié vendredi, elle condamne avec fermeté les atrocités commises par la coalition RDF-M23-AFC, pointant du doigt les assassinats des civils et le recrutement forcé des mineurs. Le major Mavoudi Sakamba, porte-parole de cette zone militaire, revient sur ce fait au micro de Jacques Mukonkole.
Les forces armées de la République démocratique du Congo fustigent avec la dernière énergie une série d'assassinats en masse de la population civile par la coalition RDF-M23-AFC. Ces ennemis de la paix ont successivement assassiné délibérément des civils dans l'espace sous leur contrôle, notamment le 4 août 2025, plus de 80 personnes lâchement abatties au village Nyamarongo, chefferie de Bouavu, territoire de Kalehe, en province du Sud Kivu, et le 24 juillet 2025, sous prétexte d'une résistance à transporter armes et munitions, cette coalition a froidement abattu 6 civils, parmi lesquels 2 mineurs d'âge à Lumbishi, dans la même chefferie de Bouavu. Outre cette criminalité à outrance, le M23-AFC s'adonne au recrutement forcé des jeunes, y compris des mineurs d'âge, pour intégrer leur organisation illégale. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent ce recrutement forcé des mineurs qui constitue un crime imprescriptible.
En Ituri, pour boucler ce chapitre, sécurité recommande plus précisément dans le territoire des Oumou. Les habitants réclament une coordination renforcée entre les forces de sécurité déployées dans la zone. Une demande formulée à l'issue de la visite d'une délégation mixte de la MONUSCO ce vendredi dans ce centre commercial situé à 75 km au sud de Bounia, théâtre d'une attaque meurtrière attribuée aux ADF qui a coûté la vie à au moins 43 personnes parmi les recommandations phare, une meilleure synergie entre les FARDC, la police et les casques bleus pour assurer la protection plus efficace des civils. Jean-Claude Loki Dile nous livre ces détails dans ce reportage.
Après près de 2 heures d'échange, plusieurs recommandations ont été formulées. La société civile demande d'abord l'organisation de deux patrouilles permanentes et mixtes, MONUSCO et FARDC. Objectif, restaurer la confiance entre les forces qui sont sur place, souvent accusées par la population d'intervenir en retard dans la zone, explique Gabriel Sonia, au responsable local de la société civile. Autre demande, une meilleure coordination des opérations contre les ADF entre les FARDC, l'armée ougandaise et les casques bleus. Sans coordination, disent-ils, l'efficacité sur le terrain reste limitée. Enfin, ils réclament l'amélioration de la couverture téléphonique. Lors de l'attaque, aucun réseau n'était disponible, rendant impossible toute alerte précoce. Bilan, 43 morts. Tous sont unanimes. L'ennemi a profité de failles sécuritaires pour attaquer dans la nuit du 26 au 27 juillet 2025. Ils veulent voir cette région être pacifiée pour permettre aux milliers de personnes déplacées qui vivent sur les sites ainsi que dans des familles d'accueil regagner un jour leur village. Le retour de commandant Jean-Claude Loki.
À Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, les travaux de modernisation de l'avenue Inga se heurtent à un obstacle inattendu. Près de 100 poteaux électriques de la SNEL, toujours en place le long de la voie, bloquent l'avancement du chantier, mais une solution se profile. Jeudi dernier, l'Agence congolaise de grands travaux et la Société nationale d'électricité ont annoncé au président de l'Assemblée provinciale et aux membres du bureau que ces poteaux seront prochainement délocalisés. Objectif, créer un nouveau réseau de distribution électrique adapté aux besoins de la ville. Les précisions avec Esther Dalafina.
Les poteaux électriques de la SNEL qui longent l'avenue Inga à partir du rond-point Petrombo jusqu'au rond-point de l'étoile en Mbujimayi constituent un danger permanent pour les usagers de cette artère. Ces poteaux sont restés visibles au milieu de cette artère en pleine modernisation. C'est ainsi que jeudi dernier, le représentant de la CGT, l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, ceux de la Société nationale d'électricité SNEL, de l'Office des routes, ainsi que le ministre provincial des travaux publics et infrastructures ont été invités à l'Assemblée provinciale pour éclairer la lanterne des autorités de la première institution de la province autour de la délocalisation de ces poteaux. Willy Mouya, président de l'Assemblée provinciale.
Au jour d'aujourd'hui, nous sommes éclairés. Pas plus longtemps, les poteaux vont être déterrés pour être replacés après les canaux.
Ingénieur Maxime Katontoka, chef de mission de la CGT, rassure.
D'ici là, cette situation sera décantée. Les contraintes techniques ont été déjà établies.
La SNEL, quant à elle, s'est dit prête pour délocaliser ses poteaux.
Ça gêne, tout le monde en parle, mais c'est pour bientôt, vous allez voir les travaux commencer.
Signalons que les travaux de modernisation de l'avenue Inga consistent à créer 4 bandes, 2 allées et 2 retours. Débutés depuis bientôt 6 mois, ces travaux avancent à pas de géant. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
C'est un tournant pour l'Institut des bâtiments et des travaux publics de Kisangani. 13 ans après, l'établissement renoue avec l'innovation en se dotant des nouveaux équipements modernes destinés à renforcer la formation des ingénieurs de demain. Cette dotation, fruit de l'initiative du nouveau comité de gestion, a été dévoilée à la presse à l'occasion de 100 jours de sa prise de fonction. Une démonstration concrète de sa volonté de redonner à l'IBTP Kisangani ses lettres et des noblesses dans le paysage de l'enseignement supérieur technique. Le point avec Jacques Moukongolé.
Cette acquisition est constituée de matériel topographique et informatique, une station totale avec accessoires, des théodolites électroniques et optiques, de niveaux de lunettes de marques variées, des jalons et un GPS Garmin. Pour le directeur général de l'UBTP Kisangani, Sarmas Bofori, cette dotation permettra de rehausser le niveau de travail pratique et renforcer les capacités techniques des étudiants en génie civil et topographique.
Devant ce chantier de la route RN4, avec quel matériel on va faire prélever des échantillons, des analyses et tout ça. Ce que nous avons fait, nous avons commencé quelque part. Et chacun, en ce qui les concerne, peut nous aider également à nous accompagner vers les partenaires qui peuvent appuyer les secteurs pour que l'on puisse être en mesure de former des bons ingénieurs.
Les étudiants se disent comblés par ces réalisations et promettent une utilisation responsable de ce matériel.
Nous remercions sincèrement les comités de gestion pour cet acte et nous vous confions encore notre confiance à ce que demain, nous voyons encore des rénovations. À la fin de ses études, il sera un homme qui va servir cette nation.
Sachez que la formation du personnel scientifique et une bonne prise en charge du personnel figurent également parmi les priorités du nouveau comité de gestion de l'UBTP. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le syndicat des enseignants dénonce les dysfonctionnements du système éducatif à travers le pays. Réunis en Assemblée générale ce vendredi au siège de leur structure à Kinshasa, les membres de la synergie du syndicat des enseignants de la RDC ont dressé un bilan critique de l'année scolaire écoulée. Dans une déclaration faite à l'issue de la rencontre, le secrétaire général de la synergie appelle le gouvernement à publier sans délai les résolutions issues des travaux sur la politique salariale avant la rentrée scolaire. Il dénonce également la caporalisation des épreuves certificatives par certains acteurs du secteur. Jean Bosco Pouna s'exprime au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Les enseignants réunis en Assemblée générale invitent le gouvernement 1. De convoquer les états généraux de l'inspection générale pour une évaluation sans complaisance de ses missions afin qu'elles soient rétablies dans sa vocation officielle d'organiser totalement les évaluations certificatives. 2. De rendre publiques les résolutions des travaux de la politique salariale avant la rentrée scolaire prochaine pour fixer les enseignants sur le nouveau barème uniformisé et équitable souhaité par tous. La convocation de la plénière avec les bancs syndicales est vivement attendue. 3. De retirer et d'annuler toutes affaires cessantes. La circulaire portant accès et maintien des filles enceintes à l'école primaire et secondaire. 4. De régler avant la rentrée prochaine les litiges des bulletins pour permettre à chaque élève de jouir de son droit et de s'inscrire sans difficulté dans une école de son choix.
Enseignement toujours, troisième et dernier jour d'échange, c'est samedi à l'école primaire Ndombe Delina dans la commune de Lancélé où se tient la revue annuelle de performance pour la province éducationnelle de Kinshasa Plateau autour du thème transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Chef d'établissement, inspecteur, enseignant, partenaire et autorité éducative ont partagé réflexions et recommandations pour améliorer la qualité de l'enseignement. Quel enseignement tirer de ces assises? Babel Pongo Massimango nous en dit plus.
Le directeur de la province éducationnelle Kinshasa Plateau, Piero Kona Pungu, explique le sens des travaux en cours.
Il y a eu des activités planifiées. Nous devons évaluer les activités réalisées et non réalisées et projeter les activités pour l'année prochaine.
Autre point au centre des analyses, la qualité de l'enseignement. Pour Raphaël Tiananga, inspecteur provincial de Kin Plateau, la formation des enseignants y a un grand impact.
Nous avons eu à former les enseignants à nouvelle approche pédagogique avec intégration l'intégration des compétences de vie courante, ce qui a été appliqué dans les salles de classe, et cela a donné des résultats concluants, surtout en ce qui concerne la lecture et écriture.
Guy Pongo Kapesa, chargé de planification, relève lui des progrès réalisés dans les écoles et quelques attentes.
Nous avons bénéficié de la construction de 10 bâtiments scolaires avec 84 latrines et d'un don d'ordinateur. Nous sommes dans une province urbano-rurale où un inspecteur doit parcourir des longs kilomètres. C'est ici les lieux pour nous de solliciter auprès de la hiérarchie un moyen de mobilité pour permettre aux inspecteurs de mieux assurer la formation et les contrôles pédagogiques des enseignants.
Cette revue qui se clôture ce samedi soir se fait en cadre de redevabilité et d'engagement pour un système éducatif plus performant.
Boma, dans la province du Congo central, alerte sur les conditions des détentions à la prison urbaine. Dans une déclaration faite à la presse ce samedi, la Fédération congolaise de droits humains et développement FCDHD s'est dit préoccupé par la dégradation de l'état de santé de plusieurs détenus. Selon Gabriel Makiese, coordonnateur de la FCDHD, les mauvaises conditions de détention combinées à une prise en charge médicale insuffisante ont plongé de nombreux détenus dans une situation critique. L'ONG appelle à une intervention urgente des autorités provinciales et nationales pour améliorer les conditions de vie dans cet établissement pénitentiaire. Gabriel Makiese qui s'exprime au micro de Nana Plus Riche Mambo.
Nous sommes profondément préoccupés par la très faible prise en charge sanitaire des détenus de la prison de Boma de la part des gouvernants. Dans une enquête récente par nous menée dans la prison précitée, nous avons enregistré des détenus dont la dégradation de leur état de santé est très avancée. Certains même sont en train de cracher du sang, incapables de se tenir debout et sont devenus de pires moribonds. Face à cette situation qui touche tant les condamnés que le détenu préventif qui, en principe, jouissent encore du droit à la présomption d'innocence, nous appelons les gouverneurs du Congo central et son membre du gouvernement ayant la justice et les droits humains dans ses attributions, ainsi que les maires de la ville de Boma, chacun selon sa part de responsabilité, de se pencher à cette question de manière urgente, car nos compatriotes privés de liberté continuent à garder le statut humain et doivent bénéficier d'un traitement qui préserve leur vie et leur santé physique et mentale telle que garantie par les mécanismes normatifs tant nationaux qu'internationaux.
Contacté par Radio Capi, le directeur de la prison urbaine de Boma, Christian Loukeloa, rejette catégoriquement ces allégations. Il affirme que les détenus souffrant de tuberculose sont pris en charge et que la prison dispose actuellement des médicaments et de vivres grâce à une subvention gouvernementale reçue en juillet dernier.
Actualité internationale.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a lancé un appel urgent ce vendredi pour que le gouvernement israélien renonce immédiatement à son projet de prise de contrôle militaire total de la bande de Gaza. Selon lui, ces plans constituent une violation flagrante du droit international et va à l'encontre de l'avis de la Cour internationale de justice qui exige la fin rapide de l'occupation israélienne. Dans un communiqué, Volker a dénoncé une escalade dangereuse qui risque d'aggraver les souffrances déjà insoutenables des civils palestiniens. Il exhorte Israël à concentrer ses efforts sur la protection des populations, notamment en garantissant un accès humanitaire sans entrave. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, partage cette inquiétude par la voix de sa porte-parole. Il s'est dit profondément alarmé par cette décision qu'il qualifie de dangereuse escalade. Il avertit que cette initiative pourrait entraîner davantage de déplacements forcé de destruction massive et de pertes humaines tout en compromettant toute perspective de paix durable.
L'invité.
Notre invité dans ce journal s'appelle Nangila Mido Eanga, conseiller stratégique au sein de l'Association des personnes vivant avec handicap international. Il milite activement pour une meilleure valorisation et inclusion des personnes en situation de handicap. Selon lui, cette catégorie de la population a pleinement sa place dans le processus de développement national. Il est au micro de Jean Gando. Suivez.
Nangila Mido Eanga, bonjour.
Bonjour beaucoup, monsieur le journaliste.
Comment les personnes vivant avec handicap sont encadrées par votre structure?
Les personnes vivant avec un handicap, dans notre structure qui est APVHI, nous les encadrons, nous assurons leur promotion, nous les encourageons pour ceux qui ont des talents qui peuvent servir notre communauté congolaise, de s'en servir de cela pour que la RDC puisse bénéficier de leurs talents. Bien que cela, nous voyons la négligence purement de la société pour les personnes vivant avec handicap. C'est pourquoi nous voulons que les personnes vivant avec handicap puissent être considérées de la même manière que tous les valides.
Donc vous considérez que ces personnes-là sont marginalisées dans la société?
Oui, exactement, ils sont vraiment marginalisés. Parce que si nous devons voir sur les 100% des réglementations sur le plan de la législation du travail, les personnes vivant avec handicap ne se retrouvent pas même à 2% par rapport aux engagements prévus.
D'après vous, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'elles ne veulent pas elles-mêmes s'intégrer dans la société?
Oui, leur intégration n'est pas du tout possible lorsque les personnes valides qui occupent des fonctions de direction ne veulent pas les approcher. Nous voyons partout en République démocratique du Congo, surtout ici en Kinshasa, des structures de personnes vivant avec handicap, à l'occurrence la PVHI, qui s'intéresse beaucoup, qui fait beaucoup de démarches pour que ces derniers se retrouvent. Mais, bien sûr, l'importance n'est pas accordée à toutes ces démarches-là qu'on puisse faire. Il faudra qu'on puisse traiter la structure, la couche des personnes vivant avec handicap de la même manière que les valides. C'est ça ce que nous voulons. Il ne faudra pas que ces personnes de genre handicapées puissent subir de mauvais traitements. Nous voulons que les personnes vivant avec handicap se retrouvent comme les personnes valides. C'est ça notre souci.
Est-ce que ce n'est pas une question de l'auto-victimisation?
Pas du tout, parce que si vous allez au niveau des campus, si vous allez par exemple à l'IEC ici, à l'ISTA, vous verrez des personnes vivant avec handicap qui se démènent, qui se débrouillent pour faire les études. Mais nulle part, ils ne sont pris en charge par le gouvernement.
Il n'y a pas très longtemps que la ministre déléguée et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, se sont mis d'accord pour prendre en compte certains des idératas des personnes vivant avec handicap.
Bien sûr, mais cela est sur le plan théorique. Vous pouvez faire un constat à travers la ville de Kinshasa pour ne pas vous envoyer à travers toute la République démocratique du Congo. Mais faites seulement ici constat, ici, dans notre boulevard du 30 juin, à la place royale, quelque part même au niveau de Bayaka, Batetela même, au marché central, vous verrez comment est-ce que les personnes vivant avec handicap sont marginalisées. Donc, ils ne peuvent même pas prendre place à bord de bus public. C'est difficile. Bien qu'il y ait déjà une autorisation de la part du gouvernement pour le service de transport qui avait accordé déjà que les personnes vivant avec handicap puissent monter gratuitement. Dommage, ils ne peuvent pas monter seuls. Il faudra qu'il y ait quelqu'un pour les faire monter, surtout pour ceux qui manquent de tricycles.
Mais nous voyons aussi qu'à Kinshasa, les personnes vivant avec handicap, certaines tout au moins, ça donne de la mendicité et tout. Mais votre association, que fait-elle pour les tirer de cette situation, ne serait-ce que par un encadrement efficient?
C'est ça notre lutte, en quelque sorte, à l'interne de nos différentes structures. Nous leur disons ceci. Il ne faudra pas rester là sur des rues en train de commander. Servons-nous de nos compétences, de nos talents pour faire un apport consistant au niveau de la société. Enfin, notre vie en tant que personne vivant avec handicap puisse changer. Pour y arriver à toutes ces choses, il nous faut un appui gouvernemental.
Midoenga, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Nangila Midoenga, conseiller stratégique au sein de l'Association des personnes vivant avec handicap international, il nous a livré l'importance de l'inclusion et de la valorisation des personnes en situation de handicap dans le développement du pays. Ainsi s'achève cette édition du journal. Elle vous a été présentée par Gisèle Cage avec Pierre Diassinois à la mise en onde et Jean Gandou à la coordination. Merci de votre écoute et de votre fidélité. L'actualité continue sur Radio Okapi et nos plateformes numériques. Vous pouvez réécouter ce journal en podcast sur radiookapi.net. Passez un excellent week-end chez vous.